L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans le Lauragais, 97.9.
Et quel plaisir de vous retrouver pour ce lundi 1er décembre après ce grand week-end du Radio Don sur Radio Présence. Très, très, très heureux de vous retrouver, chers amis. Alors, au programme de ce Présence Midi, on va revenir bien sûr à des choses beaucoup plus classiques, même si vous aurez quelques surprises pendant ce magazine. Dans quelques instants, nous serons avec le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour l'information religieuse. On parlera bien sûr du 8 décembre prochain avec lui. Et puis, on sera avec du bon monde aujourd'hui, puisqu'on sera également avec le président de la Chambre des métiers des Hautes-Pyrénées. Il nous parlera qu'aujourd'hui, avec le Black Friday qu'on vient de vivre, eh bien qu'il faut consommer local, il faut soutenir nos artisans, vous l'entendrez. Et puis, l'invité de passage à Lourdes cette semaine avec Mathias Terrier, eh bien c'est Sébastien Bousquet. Il est salarié au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Après avoir passé pas mal d'années aux espaces verts, il a changé de cap. Il est aujourd'hui, il s'occupe de tout ce qui est accessibilité. Et on parlera bien sûr de savoir comment le sanctuaire s'est transformé pour accueillir le mieux possible les pèlerins et ceux bien sûr qui sont en difficulté avec un handicap. Et bien on parlera de tout ça dans deux passages à Lourdes. On le disait bien sûr, c'est le Radio Don qui se poursuit. Si vous n'avez pas eu le temps de faire et bien un don, on peut appeler encore le 05 62 48 63 00 et je vous propose d'écouter les meilleurs moments, c'est ce qu'on appelle un bêtisier, le bêtisier du Radio Don 2025.
Radio Don 2025, le bêtisier.
C'est ce qu'on arrive aussi à construire ensemble, hein, parce que moi toute seule, vous tout seul, Philippe Subercas tout seul, ça marcherait pas. C'est aussi parce que en fait
Philippe Subercas tout seul, ça marcherait pas. Oh,
si,
oh, il ferait quelque chose quand même,
je pense.
Jonathan, vous avez quelques secondes. Hein.
Attends, je vais ouvrir le téléphone.
Ah, ben voilà. Oh là. C'est François, non?
Ah, perdu, Jonathan.
Ah, zut. Gilbert Montagnier.
Non plus.
Oh là là, donc c'est pas trop. Oh là là, oui, d'accord. Dalida.
C'était tout juste, hein?
Ah, ben oui.
On écoute Monseigneur Hayé.
Grâce à la radio, les auditeurs ont accès. Et, voilà. Et donc,
c'est
Monseigneur
Bicard, c'est pas
Monseigneur Hayé. Alors, celle-là, donc, voilà. Oh, il s'est trompé d'évêque, notre voilà, Gilles.
Oui. C'est pas moi qui fais la boulette. Hein.
On va aussi écouter un peu de musique et puis vous retrouver, cher collègue.
Ah oui, donc là, on a carrément oublié mon prénom. Quoi. C'est 21h30, c'est fini. Quoi.
Je crois que votre table de mixage, elle date. Oh, j'ai pas envie de dire qu'elle date de Marie-Pascale Olivier, ce serait pas sympa pour elle. Mais c'est vrai que ça fait un moment.
Bah, surtout qu'elle doit nous écouter.
Marie-Pascale qui était délicat, avant.
L'aventurier avec Indochine. Oui, l'aventurier d'Indochine. Oui,
C'est l'inverse. Indochine oui. Qui chante l'aventurier.
Qui chante l'aventurier. On a un peu chanté aussi, Coraline.
On a un peu chanté.
Ça a été catastrophique.
Bah,
si demain il pleut, c'est de notre faute.
On n'est pas connu justement pour être chanteur. Hein, on fait de la radio.
On écoute Monseigneur Hayé qui adresse un message de soutien pour ce Radio Don.
Je sais pas que c'est bon. Qui a gagné Balnéo? Alors on a 2 minutes, Jonathan, Balnéo. Parce que sinon je vais me faire gronder si on rate le chapelet. Et puis rattrapez-moi parce que je me suis un peu emballé tout à l'heure sur Balnéo. J'ai annoncé 2 jours pour 2 personnes.
Ah oui,
c'est 2 heures.
On va plutôt... Alors déjà, on va rester à Balnéa.
On se réunit le mardi matin à 9h pour essayer de faire le point de ce qui va être dit. Le son que vous avez entendu, c'est encore Gilles Galbardi qui ne sait pas se servir de l'ordinateur.
Hein, non, c'est Violaine qui part déjeuner.
Peuple, avec, et
avec le
aussi,
micro,
vous,
c'est mieux.
Vous faites avoir,
oui.
Vous aussi. Ça me rassure. Merci beaucoup. On, merci, Père Gabi Lagueur. Bon, et puis c'est vrai, il faut quand même dire qu'il y a des, il y a des coins de France, un peu comme les baronnies, oui. Où le pâté est meilleur que, qu'ailleurs. Hein, c'est vrai.
Vous n'êtes pas sur Rire et Chanson. Vous êtes sur Radio Présence.
Et merci à vous qui appelez à chaque fois. Alors, j'ai l'impression que j'ai de très mauvais goûts musicaux parce qu'à chaque fois que je mets une musique, ça appelle au standard.
J'aime ma radio, je la soutiens.
Radio Don 2025, voilà, avec ce bêtisier, ben oui, ça fait plaisir. C'est un peu une radio un peu différente pendant ces jours de Radio Don, et ça permet aussi de nous retrouver, les équipes ensemble, et c'est que du bonheur. Si vous voulez encore continuer à soutenir votre radio, vous pouvez le faire, hein, en composant le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, et on vous réserve encore quelques petites surprises pour l'émission, mais pour l'heure, on va retrouver le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le père Michel Dauban, qui est au micro de David Torchala.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Bonjour à tous. Le sanctuaire se prépare à célébrer l'une des grandes dates du calendrier liturgique, le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. Enfin, pardon, je devrais dire la solennité de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire l'importance de cette date pour l'Église catholique, un moment évidemment marial, intimement lié aux paroles prononcées par la Vierge dans son message à Bernadette. Cette année, ces célébrations seront marquées par un hommage floral, ainsi que par la présence des artistes du spectacle musical Bernadette de Lourdes, au moment aussi, et qui fait écho, un écho particulier qui résonnera jusqu'à Rome, où le Saint-Père honorera lui-même aussi l'Immaculée, place d'Espagne. Pour nous accompagner dans la compréhension et la beauté, j'ai envie de dire, du 8 décembre, nous avons la joie d'accueillir le père Michel Dauban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire, merci d'être avec nous. Pour commencer, pourriez-vous nous rappeler ce que nous célébrons vraiment le 8 décembre, l'Immaculée Conception?
Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Comme parfois certains en doutent, il ne s'agit pas de la conception de Jésus, mais bel et bien de sa mère, de la Vierge Marie. Donc c'est le 8 décembre, et c'est une belle fête, et une fête particulière pour nous, évidemment, dans le sanctuaire de Lourdes. Et il est intéressant aussi de noter, parce que peut-être que on l'a pas tous vraiment découvert, on l'a pas tous pris conscience, mais c'est très exactement 9 mois avant la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Donc c'est aussi symboliquement fort pour dire ce qui s'est vécu dans le cœur, dans le corps de la Vierge.
L'Immaculée Conception... Souvent, on comprend mal cette notion. C'est vrai que c'est pas très simple, pas très aisé. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer avec vos mots?
L'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est un dogme, donc, qui a été proclamé par le pape Pie IX en 1854, et qui correspond à une affirmation de foi, une vérité de foi qui lui était évidemment bien antérieure, qui s'est affinée au fil des siècles. À l'origine, il s'agit de souligner le lien entre, j'allais dire, la mère et le fils, entre la Vierge Marie et Jésus. Les pères, dès les premiers siècles, au concile d'Éphèse en 431, ont affirmé le fait que Marie était la mère de Dieu. C'est pas rien, une telle affirmation. Il s'agissait, après les conciles qui précédaient, déjà d'affirmer la divinité de Jésus étant fils de Dieu, fils d'homme, humain, comme vous, comme moi, mais également pleinement divin, pleinement Dieu. Et de fait, la conséquence de cela, c'était de dire, puisque Jésus est véritablement fils de Dieu, eh bien, sa mère est logiquement mère de Dieu. Voilà, elle qui a été pleinement humaine. Et donc, il s'agissait d'affirmer que De fait, puisqu'elle avait reçu en son sein le Fils de Dieu, elle ne pouvait être qu'exempte de tout péché. Elle ne pouvait être que la pureté même. Elle ne pouvait être que totalement distincte de ce que l'on nomme le péché originel. Il ne pouvait y avoir aucune tache, aucune altération en elle. Elle était à même pleinement de recevoir Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu.
Se dire que cette révélation aussi qu'a Bernadette Soubirous, quand elle demande à la dame son nom, de recevoir cette notion d'Immaculée Conception, elle comprend pas du tout, Bernadette. Et pourquoi est-ce si central, finalement, à Lourdes, cette révélation du 25 mars?
Alors, cette révélation est centrale parce que l'histoire est absolument extraordinaire. Donc, Pie IX proclame ce dogme le 8 décembre 1854, et moins de 4 ans après, le 25 mars 1858, au cours de la 16e apparition, après avoir été, j'allais dire, talonnée par Bernadette, elle-même talonnée par l'abbé Peyramale, voulant savoir le nom de Aquero, de cette chose, cette dame, de cette belle dame qui lui était apparue dans la grotte. La Vierge n'avait pas répondu à différentes reprises, et suite à ces demandes réitérées, c'est bel et bien le 25 mars qu'elle a dit en bigourdant « Que soy era Immaculada Concepción ». Donc, ce qui était d'une part une phrase que Bernadette évidemment ne comprenait absolument pas, puisque elle n'avait pas encore, pour ainsi dire, commencé son catéchisme, sauf qu'elle avait bénéficié des apparitions de la Vierge Marie depuis l'11 février. Et c'est peut-être pas mal comme catéchisme quand même, mais de fait, voilà, c'est une affirmation de foi. Elle était loin des grands conciles christologiques des premiers siècles, et de fait, elle n'a cessé de leur répéter cette parole tout au long du chemin pour la livrer tout à trac, j'allais dire, devant le curé qui, lui, savait pertinemment de quoi il s'agissait et qui a vu là à la fois l'authenticité de l'apparition et d'autre part la confirmation, enfin, si on peut parler d'une confirmation d'un dogme, parce qu'un dogme, s'il est affirmé dans la foi de l'Église, c'est qu'il est déjà en soi confirmé, il fait l'objet d'un consensus de la part de l'Église du temps. Mais de fait, c'était aussi ce clin d'œil de la Providence, puisque la Vierge Marie venait elle-même s'identifier ainsi auprès de la petite Bernadette, une fois de plus, moins de 4 ans après, dans une période où aussi, au XIXe siècle, le magistère de l'Église et le magistère du pape étaient contestés. Et il s'agissait aussi de l'affirmer, et c'était aussi une confortation pour l'Église que d'obtenir une telle parole par la bouche de Bernadette.
Cette 16e apparition, finalement, elle fait basculer aussi le destin de cette ville. Cette notion d'Immaculée Conception, de fait, elle concourt aussi à la reconnaissance officielle des apparitions.
Elle fait basculer tout le monde. Bernadette la première, qui dès l'après-midi se fait expliquer ce qu'elle a entendu et qu'elle a répété au curé sans le comprendre, mais que de fait elle entrevoit de plus en plus fortement. Elle fait basculer pleinement l'abbé Peyramale dans son propre discernement par rapport à ses apparitions, et de fait elle fait basculer effectivement la ville de Lourdes qui ne cesse d'être entraînée dans cette histoire qui fait beaucoup jaser, qui fait beaucoup parler dans la ville de l'époque, et elle fait basculer évidemment l'Église avec la place que, au fil des siècles, le sanctuaire de Lourdes a occupé en France, et on le sait bien au niveau universel.
Le 8 décembre, c'est évidemment une fête que vous organisez avec les chapelains du sanctuaire, avec toute la communauté d'accueil du sanctuaire. On va avoir une grande procession la veille au soir, on aura une grande messe internationale le 8 décembre, et puis aussi au moment de prier l'Angélus à la grotte, un hommage floral. Ce sont pas loin de 30 000 roses qui sont déposées chaque année au pied de la Vierge Marie. Selon vous, quel est le sens de ce geste ?
Alors, le père André Cab, un de mes prédécesseurs, avait eu cette idée, d'ailleurs ayant été passé aussi à Rome quelque temps avant, pour qu'elle soit vécue. Donc c'est un geste de foi, un geste très simple, et puis un geste beau de pouvoir offrir à la Vierge Marie une rose. Vous savez, les pèlerins n'attendent pas le 8 décembre pour offrir une rose à la Vierge Marie. À la Vierge couronnée, tout au long de l'année, depuis le matin très tôt, il y a des fleurs qui sont disposées sur le treillis qui entoure la statue, et ce sont très très souvent des roses qui sont là présente. Et donc, de fait, c'est le fait de mettre en valeur particulièrement cette solennité que de pouvoir effectivement offrir une rose. Un mari offre une rose rouge à sa femme parce qu'il l'aime. Donc, qu'un pèlerin offre une rose, en l'occurrence blanche, à la Vierge Marie, à la Vierge Immaculée, je trouve que ça a tout son sens.
Il y aura aussi une belle animation pendant cette solennité de l'Immaculée Conception avec la présence de la troupe du spectacle musical Bernadette de Lourdes. Alors si mes informations sont bonnes, ils risquent même de chanter en anglais cette année. Pourquoi ça?
Alors ça, c'est vraiment une très très grande joie dont j'ai eu la primeur il y a quelques semaines lorsque je me suis rendu à New York et que j'ai rencontré le producteur de la comédie musicale Bernadette, que ici en France nous connaissons bien, que beaucoup d'Italiens connaissent également. Une version américaine est en train de se monter. Les premières représentations auront lieu au mois de février 2026, et donc grâce au producteur, j'ai pu écouter deux chansons de Emma, notre Bernadette, qui a appris et chante en anglais ces chants que nous connaissons. Et de fait, c'est aussi l'occasion de faire en sorte que le message de Lourdes avec cette comédie musicale soit diffusé aux États-Unis. Nous savons déjà qu'il va y avoir un très très grand succès. Et la troupe a accepté de venir c'était déjà prévu plus ou moins, mais de venir en Europe. Moi, je dis, mais écoutez, c'est providentiel de venir à Lourdes en particulier, et éminemment le 8 décembre, et pour que de fait, quelque part, voilà, à la grotte de Lourdes, il y ait quand même quelque part la primeur de ce chant dans cette version américaine. Donc c'est aussi l'occasion de faire résonner au-delà de toutes les frontières cette parole qui est sortie de la bouche de Bernadette parce qu'elle avait écouté la Vierge Marie.
Et cet écho, il continue aussi jusqu'à Rome, puisque le 8 décembre, il y a cette tradition que les papes, et donc Léon XIV vraisemblablement, déposera à son tour un bouquet, en tout cas un grand bouquet au pied des grandes marches de la place d'Espagne, de cette grande colonne avec cette statue de la Vierge, et donc il remettra des fleurs pour célébrer cette solennité de l'Immaculée Conception. Et alors, cette année, il y aura une présence aussi de Bernadette, mais à travers son reliquaire, puisque les reliques de Bernadette sont à Rome au même moment. Est-ce que vous voyez là un petit clin d'œil, ou en tout cas un symbole de communion entre Lourdes et Rome?
Des clins d'œil, vous savez, j'en vois beaucoup.
Des clins d'œil.
Et j'en vois beaucoup entre Lourdes et Rome, entre Lourdes et le pape, quel qu'il soit. Hier avec le pape François, aujourd'hui avec le pape Léon. Il y a souvent un déplacement, une prière du pape Léon devant la grotte de Lourdes, qui est dans le jardin du Vatican. Et de fait, à l'occasion du 8 décembre, avec cette petite liturgie avec ces fleurs offertes sur la place d'Espagne à la Vierge Immaculée, et en même temps cet hommage floral à Lourdes, il y a évidemment une connexion importante qui se fait et qui souligne à la fois l'universalité du message de Lourdes et qui dit fondamentalement sa catholicité, avec effectivement l'importance que peut lui accorder le pape.
Merci beaucoup, Père Michel Dauban.
Avec plaisir.
À une prochaine fois.
Présence à Saint-Bertrand de Comminges, 94.1.
Et le père Michel Dobon a été interviewé par David Torchala. Nous allons partir pour Tarbes retrouver le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il va nous parler en cette période de consommation avec les cadeaux de Noël et le Black Friday que nous venons de vivre, mais qu'il faut plus que jamais consommer local. C'est un peu le message qu'il va nous dire aujourd'hui.
En 1858, la Vierge Marie révèle son nom à Bernadette Soubirous à la grotte de Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. Le 8 décembre, pour la fête de l'Immaculée Conception, offrez une rose à Notre-Dame de Lourdes sur le site internet du sanctuaire. Nous la déposerons pour vous à la grotte des Apparitions. Rendez-vous sur lourdes-france.com.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9.
Bonjour Daniel Pugès.
Bonjour.
Vous êtes président depuis 2010.
Tout à fait.
Mais vous êtes là depuis de nombreuses années, oui. Actif à la Chambre des métiers de l'artisanat. Qu'est-ce qui vous a motivé pour être aussi présent et prendre la présidence ?
Alors, effectivement, je suis rentré en Chambre des métiers en 1989. J'ai été élu membre du canton de Séméac, installé en tant que chef d'entreprise en électricité à Barbazan-de-Bade depuis avril 88. Le besoin de servir, l'envie de rendre service, accompagner les entreprises. Quand je me suis installé, j'ai été accompagné par la Chambre de métiers de l'artisanat des Hautes-Pyrénées. J'ai passé mon brevet de maîtrise, donc formation, et je me suis dit que cette structure qui est gérée par des élus, des chefs d'entreprise qui sont élus au moment d'élection en chambre de métier, qui sont renouvelables tous les 5 ans, sont au service de l'ensemble des entreprises artisanales de Haute-Pyrénées. Aujourd'hui, nous avons plus de 9000 établissements dans les Hautes-Pyrénées et nous avons vocation de les accompagner pour la création, pour la transmission, pour le développement, pour la formation, pour l'embauche. Voilà, on est présent aux côtés des chefs d'entreprise. Et cette réelle envie de servir le secteur des métiers, de servir, bien entendu, mon territoire avant tout, puisque je suis un Haut-Pyrénées de naissance, et je crois qu'il faut le faire, il faut y croire et il faut s'investir un maximum pour ne laisser personne sur le bord de la route. Les entreprises ont besoin de nous, on est là, il faut qu'elles le sachent et je les remercie et puis je salue d'abord tous les auditeurs que vous avez, bien entendu, j'aurais dû commencer par ça, leur dire qu'on sert pour eux, c'est leur outil géré par des collègues. Voilà.
Comment se porte d'ailleurs le monde de l'artisanat, particulièrement dans le département de Haute-Pyrénées ? Est-ce que vous avez des défections d'entreprise ?
Alors, le monde de l'artisanat se porte un petit peu comme le monde en général, c'est-à-dire qu'il est en souffrance aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'activité soit florissante, on ne peut pas dire que l'embauche soit facile, on ne peut pas dire que l'achat de matières premières soit facile, on ne peut pas dire que l'énergie coûte pas cher pour les entreprises qui sont de gros usagers d'énergie. Je pense aux boulangers, je pense aux carrossiers, aux mécanos qui ont des notes d'électricité très élevées. Malgré tout, la particularité qu'a le chef d'entreprise, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, c'est de répondre par la réaction immédiate, par la réactivité, par la reconstruction de projets à toutes les crises. On a des crises depuis que le monde existe. On a vécu quelque chose que personne ne pouvait imaginer, c'est la crise sanitaire, où du jour au lendemain, les exploitations ont cessé. Malgré ça, le tissu économique d'Haute-Pyrénées n'en a pas trop souffert. On a toujours dans les vallées des chefs d'entreprise qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tard. On a dans toutes les vallées des exploitants qui sont présents, qui font à la fois le lien social, le lien sociétal, qui font la richesse du territoire parce que leur activité n'est pas délocalisable. Un homme et une femme qui se lèvent tous les jours exploitent une entreprise qui est au service de la citoyenneté aux Pyrénéennes et dont les produits sont réinjectés dans le tissu économique de Haute-Pyrénées. Et ça, il faut le souligner. Donc moi j'invite tous les auditeurs à faire leur achat dans les boutiques de proximité, à faire vivre le tissu économique local, aller chez le petit artisan, petit c'est péjoratif parce que ce sont des grands hommes et des grandes femmes, mais aller dans les tissus artisanaux pour faire vos achats et vous verrez qu'on continuera à tirer notre épingle du jeu.
Est-ce que quelque part le monde de l'artisanat se porte un peu mieux que celle du commerce ? Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on peut acheter via internet. Mais si on veut se mettre une prise, on ne peut pas aller sur www, je mets une prise. Alors, et donc, si vous changez, si je suis obligé d'une fuite, je vais faire appel à un sanitaire. Et si j'ai besoin d'un charpentier, alors que c'est vrai que le commerce par rapport à l'artisanat a une concurrence peut-être mondiale.
Alors c'est un bel exemple que vous avez pris par rapport à des travaux qui sont des travaux purement de main d'œuvre. Aujourd'hui, dans tous les métiers qui touchent la conception de produits dans le bâtiment, dans l'alimentaire, ce sont des confections qui sont dites artisanales, qui sont de qualité. Cela ne souffre pas trop de l'achat dématérialisé et de l'achat mondial. Il est clair que l'action de commerce pur, elle souffre des achats et des achats pas chers et des confections pas chères et des fois des confections qui sont faites par une main d'œuvre qui est plus qu'exploitée. C'est vraiment l'esclavage industriel. Nous, en ce qui concerne
le textile, par exemple,
oui, pour pas le citer, le textile, pour pas citer certaines marques chinoises qui envahissent aujourd'hui le territoire. Mais je me mets à la place du citoyen qui a un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui affaibli, qui est diminué et qui veut malgré tout s'habiller, qui veut avoir la possibilité de se faire plaisir, de faire plaisir à son entourage familial. Il est clair que si l'achat est de qualité moindre, il permet aussi peut-être de le renouveler plus souvent. Et quand il est moins cher, il est utilisé plus facilement que un achat qui est dit soi-disant plus cher. Mais est-ce que, et je le dis souvent moi en rigolant, est-ce qu'une Mercedes c'est plus cher qu'une Clio? Pas forcément. Pourtant, les deux véhicules permettent de ne pas se mouiller quand il pleut et permettent de se déplacer d'un point A à un point B. Mais il faut des portefeuilles pour les uns et des portefeuilles pour les autres. Chacun peut acheter ce qu'il souhaite acheter. Et aujourd'hui, ce qu'il peut. Mais l'artisan.
Sur les deux exemples que vous avez donnés.
L'artisan tire son épingle du jeu parce que il fait de la qualité. Et qu'on le veuille ou non, certains produits qui sont moins chers sont malheureusement bien souvent moins bons. Alors, il n'est pas forcé non plus que le plus cher soit meilleur. Mais malgré tout, le plus cher a une qualité différente. Et c'est ce qui permet aujourd'hui au tissu artisanal de démontrer sa force par la qualité, la présence, et puis surtout les amplitudes horaires, parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, un artisan, c'est là tous les jours, 24 heures sur 24.
Je dis en préambule de cette émission, on fait un cap sur l'artisanat, différence entre chaque métier ou celui du commerce. Comment on fait pour savoir si demain on veut une entreprise, si on dépend des commerces, des métiers ou des deux? Comment ça se passe? Et à quoi elles servent ces deux chambres consulaires?
Alors, les deux chambres consulaires sont au même titre que la troisième qui existe en France, c'est la chambre de l'agriculture. Elles sont indispensables pour un bon fonctionnement de toutes les structures. Chacune a sa vocation. Chambre d'agriculture, on le sait tous, c'est les agriculteurs. La chambre de commerce et d'industrie ne figure pas le terme artisanat. C'est commerce, industrie, c'est l'action de production de grande envergure et c'est l'action de commercialisation de produits. Et la chambre des métiers de l'artisanat, c'est tout ce qui est transformation de matière. Dans tous les métiers, on a plus de 250 métiers aujourd'hui dans l'artisanat. Chaque fois qu'on va transformer de la matière, chaque fois qu'on va créer quelque chose avec de la matière, on est artisan. Et la double immatriculation, c'est le boucher charcutier qui fabrique son boudin, qui fabrique sa charcuterie et qui la commercialise. Donc l'action de commerce, il la vend. Le coiffeur, s'il vend des bijoux, s'il vend des shampoings, même si les coiffeurs, ils touchent la matière, c'est les cheveux, il est exploitant de l'artisanat. Mais le fait de vendre un produit, il devient commerçant. C'est l'action de commerce.
Double inscription.
C'est ce qu'on appelle la double immatriculation, avec une priorité à l'immatriculation chambre de métier de l'artisanat. Aujourd'hui, on a les restaurateurs, on a les fromagers. Un fromager qui fait de l'affinage, il est inscrit au répertoire des métiers parce que il prend du lait, il prend tout ce qu'il a besoin pour faire un fromage. Ça, c'est la partie artisanale. Mais derrière, quand il le vend, c'est la partie commerciale. C'est un petit peu ce qui met le flou aujourd'hui au niveau du législateur qui considère que nous sommes des cousins très proches. On est cousins, oui, c'est vrai. On a une partie d'ADN commune. Mais chacun doit garder son pré carré et chacun doit apporter un service indispensable aux ressortissants chambres de métier et les CCI aux ressortissants commerce-industrie. Et c'est comme ça qu'on va arriver à accompagner l'entreprise, la TPE, où il y a un salarié avec un apprenti, et les sociétés comme Knopf, Socata, Daher, où il y a des centaines d'apprentis. Ce sont deux structures identiques, avec des produits, des charges, un fonctionnement, compte d'exploitation, bilan, mais complètement différentes dans l'ADN profond de la constitution même de l'entreprise.
Un artisan qui travaille toute sa journée, comment vous avez fait pour vous impliquer comme ça dans la chambre? Parce que, c'est une obligation, une formalité obligatoire si on veut démarrer, s'inscrire, donc avoir son fameux sirène à la chambre des métiers si on dépend, donc effectivement vous l'avez dit, à la chambre des métiers. Pourquoi vous avez eu cette envie de quelque part d'être un peu un syndicaliste de votre représentation du monde de l'artisanat?
Alors pourquoi j'ai eu envie?
Je vous sens un peu. Vous avez des fois des revendications un peu syndicalistes. Hein.
Alors bien sûr. Je suis encore aujourd'hui adhérent à une organisation professionnelle, puisque dans les métiers de l'emploi, des employeurs, ce ne sont pas des syndicats, mais ce sont des organisations professionnelles. Je suis moi à la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment des Hautes-Pyrénées depuis 1987, époque où je présentais mon brevet de maîtrise, et j'y étais en tant que membre sympathisant. Et en 88, j'ai pris mon adhésion. Et j'ai toujours honoré mon paiement à l'adhésion, puisque même encore aujourd'hui, j'y suis. Je crois que quand je suis rentré à la chambre de métier pour faire mon brevet de maîtrise, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de compétences dans cette maison. Et moi qui sortais d'Alstom, je n'avais aucune compétence en matière de gestion, en matière de logistique, en matière commerciale pour gérer ma petite entreprise. Donc j'avais une volonté, c'était celle d'exercer un métier, mais je ne savais pas le faire. Ben, je me suis servi de la chambre de métier depuis le premier jour et je m'en sers encore aujourd'hui. Elle m'a aidé à tout faire. Elle m'a aidé à m'installer, elle m'a aidé à me former, elle m'a aidé à éviter de passer dans des impasses où ça aurait été compliqué d'en sortir. Elle m'a accompagné pour le développement, elle m'a accompagné pour les financements, elle m'a accompagné et elle m'accompagne encore et elle va m'accompagner pour la cessation d'activité aussi. C'est avec un immense plaisir et de la facilité que je suis rentré en chambre de métier, parce que je devais à minima rendre à cette structure ce qu'elle m'a apporté et ce qu'elle m'apporte encore aujourd'hui après 38 ans d'activité, quoi. L'apprentissage, voie royale pour trouver un emploi. Et puis, au niveau économique, les artisans, il faut les aider, il faut les accompagner, il faut être présent, il faut leur réserver les achats. C'est indispensable.
Écoutez, si on a le même accueil que vous, vous êtes dynamique à la chambre des métiers, franchement, n'hésitez pas, franchissez la porte. Et si vous n'avez pas l'information immédiatement, on l'aura compris, vous demandez à vos collaborateurs, bien sûr, de trouver les réponses et de revenir vers l'artisan ou la personne qui veut créer son entreprise pour avoir toutes les réponses. Grand, merci à vous. On n'a peut-être pas donné l'adresse. Merci. Tiens, vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, la chambre...
Rue du 4 septembre.
Rue du 4 septembre, voilà.
À côté de la sécurité sociale.
Oui, voilà, on fait
on fait angle de rue.
On fait angle de rue,
comme ça on est vu de partout.
Depuis des années.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Et on salue, tiens, tous les artisans qui nous écoutent sur Radio Présence. On fait un petit point sur l'actualité. Pour cela, on retrouve cette semaine Kevin Mouveau, qui est de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Bonjour Kevin.
Bonjour à toutes et à tous. Une sirène va retentir à Toulouse pour un test de sécurité industrielle. Jeudi 4 décembre 2025, la population toulousaine pourrait entendre la sirène du site Ariane Group autour de 13h45 dans le cadre d'un exercice de sécurité civile. Organisé par la préfecture de Haute-Garonne, cet entraînement testera le plan d'intervention PPI, l'organisation des secours et l'alerte via le système national SAIP. Aucun danger réel ne menace, les riverains sont invités à ne pas modifier leur comportement. Nouvelle maison France Service annoncée dans le Tarn. Une 28e maison France Service va voir le jour en 2026 à Cagnac-les-Mines, a annoncé l'État au début de la semaine dernière. Ce nouveau guichet public, labellisé dans le cadre de l'extension nationale de 61 sites, permettra aux habitants d'accéder à un budget de services. CAF, CPAM, impôts, retraite, chômage, etc. dans un lieu unique. L'objectif ? Simplifier les démarches administratives locales, en particulier dans les zones rurales, et garantir un accès aux droits à moins de 20 minutes de chez soi. Contrôle renforcé sur les chasses en Ariège. L'Office français de la biodiversité annonce une série de contrôles sur les parties de chasse en Ariège. Objectif ? Vérifier le respect des règles de la sécurité et des espèces protégées. Les agents interviendront sur le terrain, parfois sans prévenir, pour contrôler armes, autorisations, quotas et zones de tir. Une intensification justifiée par plusieurs signalements récents. Message aux chasseurs, mieux vaut être en règle, la vigilance monte d'un cran. Dans le Gers, la télécommunication devient planche de salut. Face à la pénurie de médecins, les habitants du Gers misent de plus en plus sur la télécommunication. L'occasion se présente notamment quand aucun médecin ne peut les prendre en charge localement. Dans ce département, seulement 225 médecins pour 100 000 habitants assurent le suivi médical. C'est le maillage le plus faible d'Occitanie, selon un rapport récent. Pour beaucoup, la consultation à distance est devenue la seule solution. Selon une enquête menée par la Dépêche, ce recours massif traduit une inégalité d'accès aux soins. Thomas Pesquet est de retour sous les feux des projecteurs. Lundi 15 décembre, l'astronaute français et le physicien Étienne Klein seront au Théâtre de la Cité pour un dialogue public autour de leur ouvrage « Éloge du dépassement ». Dès 20h, ils croiseront regards scientifiques et réflexions sur les limites humaines. La soirée, organisée avec Flammarion et suivie d'une dédicace, est accessible sur billetterie ouverte. Comptez 15€ pour y assister. Le festival Lisle-sur-Tarn prolonge le plaisir d'un jour. Le festival organisé à Lisle-sur-Tarn dans le Tarn sera prolongé d'une journée supplémentaire, annoncent ses organisateurs. La billetterie vient d'ouvrir pour cette date supplémentaire, une aubaine pour ceux qui n'avaient pas encore réservé. Enfin, Toulouse résiste face à l'OM. Ce samedi, Toulouse FC a arraché une égalité méritée contre l'Olympique de Marseille lors d'un match de Ligue 1 disputé à Toulouse. Les violets, poussés par leur public, ont su tenir tête face à une équipe marseillaise ambitieuse. Grâce à une défense solide et une détermination intacte, le TFC repart avec un point précieux. Pour les Toulousains, c'est la preuve qu'ils peuvent rivaliser avec le haut du classement et garder l'espoir d'un bon maintien.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une personnalité qui a une trentaine d'années d'expérience au sein du sanctuaire de Lourdes que nous allons interroger. Et vous allez voir que la discussion va être passionnante puisque ces dernières années, il s'occupe en particulier de rendre le sanctuaire de Lourdes toujours plus accueillant aux personnes qui sont en situation de fragilité ou de handicap. Sébastien Bousquet, bonjour.
Bonjour Mathias.
On est heureux de vous recevoir, vous qui êtes référent accessibilité et handicap. Alors, on explicitera hein, cette dénomination de votre fonction au sein du sanctuaire de Lourdes. Mais j'introduisais en disant que vous avez 30 ans d'expérience du sanctuaire, peut-être plus d'ailleurs. Peut-être y veniez-vous avant même d'y travailler.
C'est exact.
Mais ce sanctuaire de Lourdes dans lequel vous êtes depuis des années, en fait, vous finissez par le connaître par cœur. Vous avez été même auparavant plutôt dans le domaine des espaces verts, de l'environnement, parce que le sanctuaire, c'est plus de 50 hectares.
C'est ça, j'ai fait 20 ans au service espaces verts en tant que jardinier. Et bon, je me suis régalé en fait à faire ce métier. J'avais fait un petit peu le tour et comme je suis de nature curieuse, j'ai souhaité me lancer un nouveau défi.
Et ce défi, il colle complètement à la mission du sanctuaire de Lourdes et de notre société et de nos sociétés, qui est de rendre notre sanctuaire plus accessible pour les personnes en situation de handicap ou qui ont une fragilité, une déficience, une difficulté. D'abord, sur la dénomination de votre fonction, référent accessibilité handicap. Il y a un côté légal là, dans cette histoire-là?
Absolument. Il y a tout d'abord la mise en conformité bâtimentaire. C'était l'objectif principal de ma mission, en fait, qui nécessite de mettre en conformité par rapport à l'accessibilité 43 bâtiments, 43 établissements recevant du public du sanctuaire de Lourdes. Donc, une tâche ardue.
Oui, c'est énorme parce que peut-être que les uns et les autres n'ont pas en tête que ce qu'on appelle le sanctuaire de Lourdes pour les uns et les autres, c'est une entité spirituelle, c'est un lieu de grâce. Mais pour vous, c'est d'abord des mètres carrés de plancher.
C'est ça. C'est 100 000 mètres carrés de surface plancher. C'est 43 bâtiments, mais des bâtiments avec leurs spécificités, des lieux de culte. Voilà,
des basiliques, des églises, des chapelles.
Exactement. Donc, chaque dossier, en fait, doit être. On doit avoir une attention particulière pour chaque dossier. Et c'est quand même, ça rentre dans un cadre assez difficile, en fait.
La loi française, la loi même européenne, a donné des impulsions fortes ces dernières années, ces dernières décennies, pour que les uns et les autres, et en particulier les institutions et les organisations, les entreprises, s'adapte, travaille. Où est-ce qu'on en est au niveau du sanctuaire de Lourdes?
Alors, le sanctuaire de Lourdes ne m'a pas attendu pour prendre en compte hein, toutes ces fragilités. Il est déjà orienté et dédié aux personnes en situation de handicap. C'est historique. Moi, je suis plutôt une boîte à outils qui essaye d'apporter des améliorations par rapport à l'évolution en fait, des solutions qui nous permettent d'améliorer toujours plus la qualité d'accueil sur site. Que ce soit des solutions techniques, ou des solutions de bon sens.
Juste puisque vous êtes un spécialiste de la question, rappelez-nous la loi. Que dit la loi? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a ajourné? Est-ce qu'on est au rendez-vous de tout ça? Je dis « on », globalement, nos sociétés occidentales.
Alors la loi, c'est la loi du 11 février 2005, il y a déjà 20 ans en fait.
Ah.
Voilà, il y a déjà 20 ans, nous au niveau de la réglementation, de notre agenda d'accessibilité programmée, puisqu'on rentre avec des termes techniques, nous sommes à peu près à 60% de mise en conformité totale sur nos ORP. Il reste donc ces 40% où il y a une accessibilité partielle, mais pour laquelle nous allons demander une prorogation du délai d'exécution, parce que le projet Lourdes 2030, un projet structurel pour le sanctuaire, vient impacter ces bâtiments, donc on ne va pas commencer à engager des frais pour peut-être voilà, des lieux qui vont être modifiés.
Donc vous avez prononcé une expression là, qui peut paraître un peu technique, c'est un agenda d'accessibilité programmé. Ça, c'est dans la loi.
C'est la loi, c'est en fait un engagement de l'exploitant à mettre en conformité réglementaire par rapport à l'accessibilité les établissements recevant du public.
Et vous qui avez une longue expérience de ce qui se vit dans le sanctuaire, derrière ces expressions, vous savez qu'il y a des personnes, il y a des situations, des attentes, du prendre soin. C'est ça que vous voyez. Forcément, vous n'êtes pas qu'un technicien, un spécialiste de la question.
Non, je suis assez même surpris de la qualité d'accueil de nos salariés. C'est vraiment une culture sanctuaire d'accueil. Même si je pense qu'on peut aider nos salariés aussi avec des formations, de la sensibilisation pour donner en fait des clés de lecture supplémentaires pour arriver à justement le bon geste, la bonne pratique adaptée à tout type de handicap.
Donc vous vous dites, il faut sans doute se servir de la loi telle qu'elle s'impose à nous pour aussi toujours faire grandir cette culture de l'accueil de la personne différente. Et nous sommes quand même pas trop mal dans le sujet. Alors il ne s'agit pas de se lancer des fleurs.
Non, mais on a pris le parti de se dire que l'accessibilité au sanctuaire, ce n'était pas une contrainte. Mais on allait prendre ça comme une richesse, tout simplement. C'est tout à fait transversal comme mesure. Et en fait, tous les projets sont réfléchis avec les responsables de service de tout le sanctuaire. Tout le monde, en fait, a intégré cette démarche et cet engagement du sanctuaire.
Plus tard dans cette émission, vous nous donnerez des exemples concrets, hein, évidemment, de cette action, de ces actions qui sont menées. Mais on en reste sur ce rapport à la loi et puis cette question de la culture maison. Vous considérez que le sanctuaire, en fait, dès son origine, presque même par sa mission originelle délivrée par la Vierge Marie, est hypersensible à ce sujet du handicap et de l'accessibilité?
Oui, tout à fait. Il suffit de venir ressentir un petit peu cette atmosphère sanctuaire. Quand on voit les pèlerinages organisés, comment c'est organisé vraiment autour du malade, on va employer ce vocabulaire-là, les hospitaliers qui sont dédiés vraiment à cette mission d'accueil, c'est assez bluffant et ça nous permet de dire qu'on n'est certainement pas dans un lieu comme les autres.
Et les salariés également du sanctuaire?
Bien sûr, les salariés également. Alors, ma mission, moi, c'est simplement d'apporter des clés supplémentaires et d'essayer de travailler une espèce de culture commune et homogène de la qualité d'accueil. Il y a certainement des services, je pense à l'OCH, qui sont un petit peu plus performants parce que c'est leur cœur de métier.
L'Office chrétien des handicapés, qui est au sein même du sanctuaire de Lourdes.
Tout à fait, c'est un lieu particulier qui est tourné, alors celui-ci, vers l'accueil des personnes, des individuels, on va dire ça comme ça, et qui ont des compétences d'accueil incroyables.
Oui. Donc s'agissant de ce travail de sensibilisation, vous vous dites, c'est jamais acquis, il faut toujours continuer. Même si on a quand même de bons fondements, une bonne base.
Oui, c'est ça. On peut toujours améliorer, optimiser ce qui est en place. Donc, il faut capitaliser sur nos acquis, mais aussi déployer de nouvelles solutions, peut-être techniques, peut-être humaines, et réfléchir avec de nouveaux prismes de vision.
Et ce qui est particulier dans le sanctuaire, vous l'avez un petit peu abordé là, il y a une minute ou deux, c'est qu'il y a énormément de bénévolats hypersensibles à l'accueil du handicap, puisqu'ils sont là pour les personnes fragiles, handicapées, malades. Également, il y a un salariat qui est sensible. Le monde des clercs, des prêtres aussi. C'est cette communauté de travail, en fait, d'accueil et d'accompagnement qu'il faut sensibiliser. C'est énorme, en fait.
Bien sûr, c'est énorme, mais on a vraiment le souhait de partir dans cette direction et de proposer tout simplement des formules de sensibilisation, par des petites formations, mais aussi des témoignages de personnes en situation de handicap qui viendraient partager leurs problématiques du quotidien avec nos salariés pour toujours améliorer, capitaliser sur les bonnes pratiques.
Oui. Vous allez chercher des expériences vécues dans tel ou tel pèlerinage ou telle organisation pour dire mais partageons-la. Faisons rayonner cette expérience. Vous faites ça aussi ?
Oui, on fait ça aussi. On travaille aussi avec des associations, voire ensemble, APF, France Handicap.
On a parlé de l'OCH qui est aussi une fondation, je crois.
Tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une réflexion globale sur l'accueil de la personne en situation de handicap et aussi de faire participer tout simplement ces personnes en situation de handicap qui vont pouvoir nous apporter leurs compétences expérientielles de la vie de tous les jours, en fait.
Un des dangers qui nous guette à Lourdes, c'est d'être dans l'autosatisfaction un peu et de se dire, bon, on fait le maximum, on fait beaucoup. Or, pour ceux qui sont en situation de handicap qui nous écoutent, peut-être certains se disent, non, mais ils exagèrent, là. Ils sont en train de discuter entre tous les deux, entre Sébastien et Mathias. Ils se font plaisir. La vérité, c'est qu'on n'a pas toujours fait les efforts qu'il faut et on ne les a pas vraiment fait encore depuis 20 ans, depuis le début de cette loi et sa promulgation.
Oui, il est difficile de répondre à 100% des problématiques, mais depuis quelques années, notamment depuis 2020, où il y a eu la création de ce poste-là de référent accessibilité handicap, il y a un engagement fort du sanctuaire. Dans ce sens-là, dans une démarche d'accessibilité universelle. Ouais. C'est vraiment donner la capacité à tout individu venant au sanctuaire de pouvoir vivre pleinement son expérience sanctuaire.
Oui. Donc vous êtes vous attentif à ce qu'on soit pas dans l'autosatisfaction, mais toujours être un aiguillon quelque part. C'est-à-dire, voilà. On fait pas toujours ce qu'il faut. Attention, progressons.
C'est ça. Je suis un petit peu le troublion qui vient proposer des solutions et essayer de faire avancer les choses ou par des réflexions ou par des plans d'action.
Oui, c'est pas toujours. Donc, il faut jamais se reposer sur ses lauriers, sur ses sujets. Mais il faut garder ce plan de formation, de transmission, d'accompagnement.
Oui, oui, c'est vraiment une démarche. Alors, une démarche à moyen terme, je dirais, avec un objectif de positionner le sanctuaire comme une référence de l'accueil des personnes en situation de handicap, mais aussi de savoir positionner des actions pas à pas, c'est-à-dire quotidiennes, tous les jours, avec des plans d'action. Différents plans d'action handicap auditif, plans d'action handicap visuel que nous déployons en ce moment.
Nous allons nous arrêter quelques instants, si vous voulez, Sébastien Bousquet. Juste après, nous continuons ce dialogue ensemble. Nous parlerons des handicaps et pas du handicap. Vous allez nous dire combien c'est compliqué de s'adapter à parfois une grosse diversité de difficultés, de déficiences ou de handicaps. On parlera aussi d'argent. Parce qu'il faut en mettre sur la table. Comment on fait ? C'est souvent le nerf de la guerre pour mener à bien des gros projets. Et puis, vous nous direz comment Lourdes se projette sur l'avenir, sur les 10 ans. Est-ce qu'il y a des visions, des projets concernant toutes ces questions d'accessibilité, de fragilité et de handicap ? À tout de suite.
Merci.
Présence
de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier.
Nous sommes aujourd'hui avec Sébastien Bousquet, qui est au Sanctuaire de Lourdes, employé, salarié de ce Sanctuaire de Lourdes depuis 28 ans exactement, et qui, ces dernières années, s'occupe particulièrement d'aider l'organisation qu'est le Sanctuaire de Lourdes, qui est une grande communauté d'accueil et de travail, de s'adapter toujours mieux à accueillir les personnes en situation de handicap, de situation de fragilité, ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc Sébastien Bousquet, vous êtes le référent sur ce domaine, tout le Sanctuaire. On a parlé de cette culture maison qui est la bienvenue au sein du sanctuaire entre des bénévoles, des hospitaliers, des hospitalières, des salariés, le monde des religieux, des religieuses, des chapelains. Quelle communauté est hyper sensible à accueillir les personnes en situation de handicap et de maladie. Reste que quand même, on est parfois un peu gauche sur ces sujets parce que on n'en a pas une connaissance précise ou bien on a une connaissance spécifique du fait qu'on côtoie une personne ou deux qui ont un handicap visible. Faisons le point ensemble sur ce sujet. On ne peut pas dire le handicap, mais les handicaps, en fait. Et oui. Parfois même, on peut, vous ou moi, en avoir un qui ne se voit pas.
Tout à fait. Il faut savoir que sur les handicaps, 20% des handicaps sont visibles. Et de fait, 80% sont invisibles. Handicap visuel, cécité partielle, handicap auditif, mais peut-être aussi handicap mental, cognitif. Donc, ça amène tout un tas de solutions spécifiques, du sur-mesure à trouver pour apporter toujours plus de solutions à une personne qui se présenterait au sanctuaire et pour lui permettre de vivre cette expérience pleinement.
Donc ça veut dire qu'il faut se méfier de ces préjugés. Souvent, ils naissent du fait qu'on a une connaissance partielle des questions, que parfois même, bon, on s'est mis des choses en tête qui sont fausses. C'est un combat, ça, le combat contre les préjugés. En tout cas, pousser les gens à mieux connaître les handicaps.
Alors, il y a une évidence au sanctuaire, c'est que la bienveillance domine. Ça, c'est une certitude, parfois.
Ce qui est une bonne chose.
Ce qui est une bonne chose, j'en conviens. Mais parfois, peut-être un manque de compétences peut nous amener à des situations critiques. Et je pense justement à un jeune homme qui est atteint d'autisme. Donc, il y a des bonnes pratiques à respecter. Et des fois, en voulant être trop bienveillant ou en trop vouloir bien faire, on peut justement vouloir toucher pour mettre en confiance, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire, typiquement. Donc là, juste un petit peu de connaissance, de clé de lecture de ce handicap peut permettre justement d'être meilleur encore dans son accueil.
Donc vous dites qu'au fond, la bienveillance est magnifique, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça.
Non, ça ne suffit pas.
Et se remettre en question même, parfois, sans doute.
Mais parfois, tout à fait, oui. Alors, j'ai commencé comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il est difficile d'appréhender toutes les problématiques de chaque handicap. Et souvent, c'est en parlant, c'est à travers de témoignages, c'est en échangeant, qu'on comprend un petit peu la multiplicité de problématiques et de solutions qu'on doit mettre en face pour répondre à ces problématiques. Très simplement, une personne non-voyante qui cherchait l'OCH. Elle a été accompagnée par un couple, donc ça veut dire que les personnes ont fait ce qu'il fallait en fait, ou presque, sauf qu'ils ont pris son bras avec la canne. Donc à ce moment-là, en fait, ils lui ont enlevé sa capacité à détecter. Ça, c'était d'un côté bienveillant, oui, mais c'était une erreur technique tout simplement. Et s'ils avaient su, ils auraient pu tout simplement se présenter à la personne, lui demander s'il pouvait l'accompagner jusqu'à l'OCH, hein, et proposer le bras pour la conduire. C'était assez simple à savoir à partir du moment où on a connaissance de ce qu'il faut faire, tout simplement.
Oui, et là, en l'occurrence, la bienveillance aurait nécessité un peu plus.
Ouais. Absolument. Donc c'est pour ça que ces temps de sensibilisation et de formation sont indispensables, parce que au-delà de la formation du salarié, c'est aussi la formation du citoyen. Ça veut dire que ces gestes-là, quand on les a appris dans le cadre de notre travail, on peut aussi les déployer dans la vie de tous les jours. Et je pense que ça a du sens aussi quand on travaille au sanctuaire.
Vous dites qu'il y a de la formation, il y a de bonnes pratiques. La bienveillance, c'est un bon prérequis quand même, toujours. Il faut partir de là, mais il faut aller au-delà. Il faut quand même des sous, il faut de l'argent quand même, Sébastien Bousquet. On voit bien que les projets, ils butent souvent sur ces problématiques de moyens.
Tout à fait, même s'il y a un engagement fort du sanctuaire, aller à la recherche de financement, notamment au niveau de l'État, c'est quand même assez intéressant. Et ça permet de construire une collaboration, un partenariat avec les préfectures pour nous permettre d'être un petit peu un catalyseur de réussite et d'avancer dans nos démarches qu'on souhaite mettre en place. Ça peut être sur du bâtimentaire, mais ça peut être aussi sur des sessions de formation.
Vous avez en tête des exemples concrets de projets en cours ou bien de projets déjà réalisés?
Oui, nous avons sollicité plusieurs financements. Le Fonds national d'aménagement et de développement des territoires qui nous permet de faire une étude sur de la maîtrise d'œuvre sur les bâtiments. Voilà, c'est quand même un appui technique assez intéressant pour nous sur 6 bâtiments.
Et ensuite, quand on fait une rénovation, on ne fait pas n'importe quoi, c'est ça que vous dites?
Voilà, il y a un référentiel des attendus, il y a un bureau de contrôle qui vient valider les propositions d'aménagement et de travaux, et ensuite il y a un rapport de vérification périodique qui valide tous ces travaux, en étant passé par une commission, bien sûr.
Ça paraît tout ça un peu compliqué, mais la visée est toujours la même, c'est comment on tient compte des personnes avec leur situation, leurs difficultés, leur fragilité et leurs problèmes, quoi.
Mais c'est surtout dans l'écoute, en fait. L'écoute va permettre de porter une analyse,
oui,
l'analyse des besoins, et après d'apporter une réponse ou d'aller à la recherche de réponses, qu'ils soient connues ou pas. Le référentiel des attendus, c'est très technique.
Oui.
Voilà. Mais on peut aller au-delà, et le sanctuaire souhaite aller même au-delà des
mais est-ce que vous appelez un référentiel des attendus? En fait, c'est ce dont ont besoin les personnes pour que leur handicap soit pris en compte.
C'est exactement ça.
Pour loger dans telle chambre, destinée même à des personnes, par exemple, des religieux, des personnes qui viendraient loger au sanctuaire de Lourdes, à la maison Pommian, à la maison Louise et François Soubirous, des choses comme ça.
Voilà, l'idée c'est vraiment de déployer, par exemple, là, typiquement à la maison Abbé Pommian, c'est de déployer des chambres PMR qui sont déjà existantes, pour permettre à une personne en fauteuil de pouvoir techniquement venir et d'avoir quasiment aucune contrainte et pourra venir au sanctuaire librement.
Il y a au sein du sanctuaire de Lourdes l'accueil Notre-Dame. Est-ce que vous diriez que c'est le lieu emblématique de l'accueil des personnes malades, mais en particulier le fer de lance de cette politique d'accessibilité?
Oui, très clairement, j'emploierai même le terme de bateau amiral, parce que c'est un lieu qui est vraiment tourné et dédié à l'accueil des personnes en situation de handicap. Il a été réalisé en 97, c'est assez bluffant. Donc avant 2005, et c'est assez bluffant, vraiment l'approche des architectes pour concevoir ce bâtiment qui est vraiment tourné pour permettre aux personnes en situation de handicap vraiment de vivre l'expérience sanctuaire avec en toute autonomie.
Donc quand il s'agit d'investir dans du bâti ou dans de l'accessibilité, vous vous mettez au travail aussi pour voir comment, du point de vue du financement, on peut y apporter une touche spécifique venant de l'argent public, d'argent privé, essayer de trouver ces équilibres-là.
Oui, absolument. Donc, c'est créer des ponts, créer un réseau qui permet en fait de collaborer autour de projets. Je vais prendre un exemple, la maquette tactile du sanctuaire, oui. Donc qui va servir dans notre plan d'action handicap visuel et qui va permettre à un non-voyant de faire une cartographie mentale du sanctuaire. La dernière que nous avions est datée de 2003. Elle est un peu désuète. Et nous avons souhaité réfléchir à la création d'une nouvelle, donc en partenariat avec l'OCH Paris et avec Voir Ensemble.
Que font les nouvelles technos dans votre univers à vous, les nouvelles technologies? Est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous sentez qu'il y a des opportunités exceptionnelles?
Il y a des pistes de réflexion, oui, tout à fait. On parle de handicap auditif. Nous avions mené une étude sur les boucles induction magnétique, donc qui permettaient à des personnes appareillées d'entendre directement le retour micro dans leur prothèse auditive. Bon, il s'avère que ce sont des solutions très coûteuses, efficaces mais très coûteuses, et il y a des nouvelles solutions technologiques qui se déploient, donc nous avons souhaité basculer vers cette innovation avec une fast test et une période de validation en fait. Donc cette nouvelle solution s'appelle Auracast et nous l'avons déployée au Rosaire.
Oui. Et donc à chaque fois qu'il est possible d'y mettre de la technologie qui améliore la vie et l'accessibilité, on le fait.
Mais c'est exactement ça, ça apportera des réponses non seulement pour le handicap auditif, voilà, ça permettra d'avoir un retour son correct et enlever tous les bruits parasites, mais ça permettra aussi d'apporter pour le handicap visuel et notamment pour les personnes à cécité totale qui ne peuvent pas ressentir tout ce qui se passe lors d'une cérémonie, avoir de l'audiodescription aussi dans leurs appareils, donc une participation augmentée à la cérémonie.
Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que nous abordions deux sujets. La place des personnes en situation de handicap au sein même du personnel du sanctuaire, sans doute que vous les côtoyez et que vous pouvez nous dire combien ils jouent un rôle clé aussi dans ces politiques de sensibilisation. Et puis également parler de Lourdes 2030, qui est un projet de développement, d'investissement pour le sanctuaire de Lourdes. Est-ce que vous diriez que le sanctuaire essaie de faire aussi ce qu'il faut pour accueillir au sein de ses équipes des personnes qui ont un handicap?
Bien sûr, bien sûr. Ça n'était pas suffisant d'accueillir, enfin de prendre en compte simplement les personnes qui viennent au sein du sanctuaire.
Oui.
Mais il était évident aussi d'apporter une attention particulière à nos collaborateurs, nos amis, nos collègues qui ont un handicap particulier. Donc, que ce soit l'amélioration de leur poste de travail, mais aussi leur proposer une partie active dans cette démarche du sanctuaire. C'est-à-dire, par exemple, créer une vidéo langue des signes avec une personne qui est sourde et qui travaille
dans le sanctuaire.
Qui travaille au sanctuaire, qui est feutier.
Oui.
Avec d'ailleurs plusieurs personnes même, Thierry et Vincent.
Oui, oui. Et donc c'est extrêmement puissant en termes de levier de transmission, de sensibilisation, que d'avoir un collègue ou bien quelqu'un de pas très loin de soi qui est touché et qui est prêt à témoigner.
Oui, mais ce qui est surprenant, c'est que leur engagement est très fort en fait. Et leur engagement et leur amour du sanctuaire est très fort. Et donc, ils peuvent, avec leur...
Leur charisme propre.
Oui, avec leur handicap, mais aussi avec leur charisme propre, tout à fait. Ils peuvent justement proposer mais voilà, ce genre de passerelle avec les visiteurs.
Oui. S'agissant de l'avenir du sanctuaire, évidemment, une organisation se projette toujours sur les 10-15 ans. Il y a ce qu'on appelle au sein du sanctuaire de Lourdes le plan Lourdes 2030, qui est un plan d'investissement, un réservoir de projets, on va dire comme ça.
Clairement. C'est un projet qui est extrêmement structurant, mais qui aussi impacte l'ADAP. donc l'agenda accessibilité programmé, et qui va nous pousser en fait à avoir une réflexion vraiment globale sur l'accessibilité. Voilà, c'est vraiment la pierre angulaire aussi de cette façon de réfléchir à l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on va certainement se positionner au-delà des attentes réglementaires.
Ah oui.
Voilà. C'est l'objectif du sanctuaire, mais c'est pas très étonnant puisque c'est plus ou moins déjà le cas.
Et vous trouvez, Sébastien, que il faut se positionner au-delà des attentes réglementaires. Il faut être plus exigeant encore que la loi.
Oui, très clairement. C'est la base. La loi, c'est vraiment le prérequis de base. Quand on travaille au sanctuaire, il n'est pas difficile de comprendre que notre mission, c'est d'aller au-delà de tout ça, de cette réglementation.
On vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes salarié du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, mais fortement engagé, et en particulier dans ce domaine, d'être référent accessibilité et handicap. Peut-être un mot de la fin pour terminer.
Ben écoutez, moi je pense que chaque salarié prouve quotidiennement en fait que la prise en compte et l'accompagnement des plus fragiles est une composante naturelle de l'esprit de l'accueil de Lourdes.
Ouais, merci. Ça résume très bien ce qui constitue l'esprit maison, cette culture d'entreprise, certains diraient, qui est pour nous l'esprit de la maison. Merci Sébastien.
Merci, bon vent
et puis beaucoup de courage pour ces combats qui a mené quand même, hein, qui ne sont pas toujours très simples.
Merci Mathias.
Au revoir.
Au revoir.
Danse, place du Capitole, 97.9.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape à la rencontre des chrétiens libanais. Ce matin, le Saint-Père a prié sur la tombe de Saint Charbel, le saint le plus populaire.